midi et demi. Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous François Claus. Bonjour François.
Bonjour Ombline, bonjour à toutes, bonjour à tous. On s'y prépare, on s'y habitue malheureusement. Deuxième épisode caniculaire de l'été 2019. Et comme pour le mois de juin, ce pourrait être dans les prochains jours de juillet de tous les records. Avant vos prévisions détaillées, bonjour Elena Morna.
Bonjour à tous.
Tout à l'heure à 12h58, la chaleur, vous confirmez, est bel et bien là, à commencer par le sud-ouest.
40 à 42 degrés cet après-midi entre Limoges, Toulouse, Bordeaux, Montauban, Biarritz, ça n'est qu'un début effectivement François. Les températures vont monter d'un cran demain et s'étendre ensuite à l'ensemble du pays. Alors l'épisode 2 de la canicule 2019 devrait être plus intense que l'épisode 1, celui du mois de juin, puisqu'il va s'étendre à l'ensemble du pays et on devrait avoir effectivement des températures records dans le nord et dans l'est.
Prévision détaillée, je le disais tout à l'heure, juste avant 13h. Canicule a sorti cette année d'un épisode de sécheresse qui s'étend et menace la survie de bon nombre d'exploitations agricoles. Le ministre de l'Agriculture a annoncé hier soir un versement anticipé des aides européennes. Trop peu et trop tard, répond sur Europe 1 la présidente de la FNSEA. Dans l'actualité de ce lundi 22 juillet, la bataille du CETA qui est engagée, Nicolas Hulot monte en première ligne et la jeune égérie de la défense de la planète, Greta Thunberg, se retrouve au cœur d'une polémique qui embrase le Parlement. 117 millions d'euros, amende record réclamée par Bercy à Michel-Édouard Leclerc, accusé de pressions excessives sur ses fournisseurs. Et puis dans ce journal, trois questions auxquelles nous allons tenter de vous répondre. Pourquoi Notre-Dame doit rester une église et pas un musée? Combien nous coûte en France le travail au noir? Et Thibaut Pinot est-il le favori du Tour de France? Pour cette troisième question, c'est bien sûr notre consultant Thomas Veuclair qui nous donnera tout à l'heure la réponse.
Europe 1.
Mais avant de développer toute cette actualité, nous allons dévoiler un mystère de plus de 50 ans qui vient de remonter à la surface. On a appris ce matin que l'épave du sous-marin français, la Minerve, disparue en 1968 avec 52 hommes à bord, a bel et bien été localisée. Bonjour Théo Manval.
Bonjour François.
Et cette épave, finalement Théo, elle n'était pas si loin.
Non, retrouvée au large de Toulon, à 45 km des côtes seulement, par 2300 mètres de fond. C'est ce qu'annonce ce matin la ministre des Armées, Florence Parly. La fin d'un mystère vieux de près de 50 ans, vous le disiez, grâce à un gros travail de la marine française qui avait repris les recherches 49 ans après, au mois de février, aidée par l'Ifremer depuis début juillet, par un navire américain spécialisé dans la recherche d'épaves arrivé sur les lieux il y a 5 jours et qui a donc permis de retrouver ce sous-marin en 3 morceaux distincts identifiés formellement par les lettres M-I-N, filmés par des appareils sous-marins sur l'un de ces morceaux. C'est une émotion immense, hein, vous l'imaginez, pour les familles qui attendaient des explications depuis des années. Thérèse est la veuve de l'un des sous-mariniers. Elle avait 25 ans et demi au moment du naufrage, 77 ans aujourd'hui.
J'étais persuadée que la Minerve serait localisée. Ça, c'était certain pour moi. Mais cette attente, ces 50 ans d'attente, c'est quand même long. C'est une vie d'attente. Ne pas avoir d'informations, ne pas avoir la raison, le lieu ou le pourquoi, le comment, c'était impossible. Le fait qu'on l'ait retrouvée va m'apaise. Je vais pouvoir faire mon deuil. Mes enfants vont pouvoir faire leur deuil. On va pouvoir rendre un dernier hommage, bien entendu, aller sur les lieux, faire une cérémonie, bien entendu, d'adieu et se dire, ben, ils sont là. Voilà, c'est la sépulture marine, mais ils ont enfin une sépulture, enfin.
Et on saura peut-être désormais aussi comment ce jeudi 2 février 1968 à Toulon, la Minerve et ses 800 tonnes ont coulé et fini par imploser sous la pression. Avarie, erreur humaine, problème technique, un peu d'étroit. Au-delà de la sépulture, cette découverte permettra peut-être enfin de percer vraiment le mystère.
Merci Théo Manval avec le soutien de Romain Oquet.
Midi 34, la suite du journal sur Europe 1, François Claus.
117 millions d'euros pour une amende, c'est plutôt salé. Et c'est ce que le ministère des Finances veut faire payer à l'un des grands distributeurs français, monsieur Leclerc. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour François, bonjour à tous.
C'est pas la première fois que l'enseigne Leclerc est dans le collimateur de Bercy, qui reproche à l'enseigne, mais surtout à sa centrale d'achat, des pratiques commerciales abusives sur ses fournisseurs. Alors expliquez-nous, Maud, ce que l'on entend par pratiques commerciales abusives.
Eh bien écoutez, c'est simplement quand l'acheteur, donc la grande distribution, fait pression sur ses fournisseurs pour qu'ils baissent leurs prix sans aucune contrepartie. Cette pratique, elle est malheureusement bien connue hein, des fournisseurs qui travaillent avec la grande distribution. Elle est dénoncée depuis des années. Le groupe Leclerc est donc visé par Bercy, hein, qui l'accuse d'exercer ce type de pression sur ses fournisseurs via sa centrale d'achat qui est implantée en Belgique. Le ministère des Finances a assigné 4 entités du groupe devant le tribunal de commerce. 117 millions d'euros d'amende. Pourquoi une somme aussi importante hein, c'est une amende record. Eh bien parce que Leclerc est récidiviste. Ce sont les mots de la ministre Agnès Pannier-Runacher qui a dénoncé des méthodes inadmissibles. Pour elle donc, une seule solution, frapper fort au porte-monnaie du groupe. Leclerc a déjà été assigné 7 fois hein, pour ce type de pratique, rappelle-t-on à Bercy, qui indique aussi s'intéresser à d'autres enseignes de la grande distribution. Du côté du groupe Leclerc, eh bien, on confirme avoir reçu une assignation et on dénonce des attaques permanentes contre la politique de prix bas pour les consommateurs, politique sur laquelle s'est construite toute l'image de cette enseigne.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. C'est un phénomène qui est souvent évoqué, très rarement évalué, le travail au noir en France. Eh bien, nos confrères du journal Les Échos apportent ce matin un chiffre au débat. Bonjour Chanel Petit.
Bonjour François.
Des documents publiés par nos confrères qui émanent de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Et ce chiffre, la fraude aux cotisations sociales serait de l'ordre de 7 Chanel à 9 milliards d'euros.
Eh oui, alors c'est beaucoup bien sûr, mais ça reste loin des estimations précédentes de la Cour des comptes, 25 milliards d'euros. Et surtout, cette fraude, elle ne représente au final qu'une faible partie de l'ensemble des cotisations sociales, 2 à 3% seulement. À titre de comparaison, le travail au noir, c'est un manque à gagner deux fois moins important que la fraude aux prestations sociales. C'est la fraude à la CAF, à l'assurance chômage par exemple, et 10 fois moins que la fraude fiscale. Ce qui est intéressant dans ces documents, c'est qu'on apprend notamment dans quel secteur on embauche le plus au noir. 9% des emplois dans les garages automobiles, 14% dans le BTP, 20% dans les cafés-restaurants et presque 30% dans le gardiennage. Et c'est notamment pour lutter contre tout ça qu'en septembre dernier, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a annoncé la création d'un observatoire de la fraude. Nous sommes 10 mois plus tard et cet observatoire, eh bien, il n'a toujours pas vu le jour.
Les précisions de Chanel Petit. Alors que près des 2/3 de la France se retrouvent soumis à des mesures de restriction de l'usage de l'eau, alors qu'un nouvel épisode de canicule, on l'a entendu avec Elena Morna, se profile cette semaine, les agriculteurs souffrent, se demandent comment ils vont bien pouvoir demain nourrir leurs bêtes. Le ministère de l'Agriculture a annoncé hier soir que Bruxelles pourrait anticiper le versement de ses aides, des aides traditionnellement versées à l'automne. Les agriculteurs toucheraient ainsi le 16 octobre prochain, non pas 50, mais 70% des aides qui leur sont attribuées par Bruxelles. Pour la présidente du principal syndicat agricole française qui s'exprimait sur Europe 1, Christiane Lambert, cette aide est bonne à prendre, mais c'est un peu trop tard et trop peu.
Le ministre de l'Agriculture active la même clause que l'année dernière, le ministre précédent, puisque nous avons une sécheresse à nouveau. C'est un ballon d'oxygène qui arrivera malheureusement le 16 octobre, c'est-à-dire dans 3 mois. J'aurais préféré qu'il prenne des mesures pour permettre d'acheter du fourrage maintenant. J'ai proposé les péages gratuits pour tous les transports de paille et fourrage ou une aide au transport. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il a choisi.
Pour vous, ça arrive donc trop tard.
C'est maintenant que les agriculteurs peuvent trouver de la paille et du fourrage. En octobre, il n'y en aura plus. Les moissons, c'est maintenant. Et donc, c'est un effet d'annonce, effectivement, puisque c'est la même chose que l'année dernière. Ça fera du bien aux trésoreries, c'est indéniable. Mais de façon très pragmatique, il détourne l'attention aussi avec cette annonce faramineuse. Je rappelle que ce sont des aides européennes qui sont versées aux agriculteurs chaque année, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui sera ce soir en direct sur Europe 1 à 18h30 et qui répondra à toutes nos questions, notamment sur le CETA, où il a beaucoup de choses à dire également.
Et on va continuer à parler de la canicule. François Claus, on s'inquiète du côté des EHPAD notamment.
Oui, on va voir comment les mesures de protection pour personnes âgées se mettent en place dans un EHPAD du côté de La Roche-sur-Yon dans un instant.
Il est midi 41, la suite du journal sur Europe 1, François Claus.
Ce sont pour l'heure 21 départements, essentiellement dans le sud-ouest, mais aussi au sud du Massif central, qui sont placés en vigilance canicule. Mais l'épisode devrait dans les prochains jours s'étendre à peu près à tout le pays, avec des températures de plus de 40 degrés en première ligne, comme à chaque fois les EHPAD qui accueillent les personnes âgées particulièrement fragiles. Des EHPAD qui ont pour la plupart su retenir, Claudia Bertram, les leçons de cette grande canicule de 2003 notamment.
Oui François, ici les précédentes canicules ont servi de leçon, comme dans cette résidence pour seniors Lion d'Or. Suzanne et Roger, 87 et 89 ans, y habitent depuis 2 ans. Et cette année, ils ont pris leur disposition.
L'an passé, où nous avons vécu une canicule importante, sans équipement, nous avons beaucoup souffert. Il a fallu faire des travaux coûteux, pas loin de 1000 euros, pour faire installer le climatiseur qui coûte 1000 euros. Il faut choisir. On s'est passé d'autres choses qui nous semblaient moins indispensables et nous nous sommes équipés.
Dans un EHPAD voisin qui accueille une trentaine de patients dépendants, on s'organise avant même l'arrivée de la chaleur. Maxime est soignant.
On ferme les volets, donc c'est pour ça qu'il fait assez sombre. On éteint toutes les sources de chaleur, donc tout ce qui est lumière. Ce matin, on a ouvert par exemple tout, même s'il faisait même un peu froid, pour vraiment changer d'air et que la fraîcheur essaye de s'installer. Au niveau des murs et tout, je pense que ça fait pas de mal. On est entouré de baies vitrées. Je pense qu'une heure de soleil dans les baies vitrées suffit pour que la chaleur revienne. On peut anticiper quoi.
Ce matin, en plus des passages habituels, des distributions de boissons fraîches supplémentaires sont prévues 2 fois par jour.
Reportage signé Claudia Bertram dans un EHPAD de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Alors que cette canicule et cette sécheresse sont au cœur de l'actualité, vous l'avez compris, voilà que les députés s'apprêtent à voter demain pour ou contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le fameux CETA, qui devient au fil des heures un texte emblématique de l'affrontement entre libre-échangistes et défenseurs de l'environnement. Nicolas Hulot a fait une entrée fracassante dans le débat ce matin en publiant une tribune exhortant les députés à voter contre le CETA. Et voilà que dans ce contexte, la jeune Suédoise Greta Thunberg, qui devait être reçue au Palais Bourbon, elle se retrouve au cœur d'une véritable polémique quand la jeune égérie de la cause environnementale suscite même une fracture, Jean-Rémy Baudeau, au sein du Parlement.
Oui François, fracture et disons-le, un peu d'emballement. Une partie des parlementaires de droite et d'extrême droite appellent au boycott de la conférence dans laquelle Greta Thunberg va intervenir. Les mots doux pleuvent sur elle depuis 48 heures. Le LR Guillaume Larrivé dénonce une gourou apocalyptique quand son collègue Julien Aubert parle de prophétesse en culotte courte, fin de citation. Sauf que derrière cette polémique, la réalité c'est qu'elle n'interviendra pas dans l'hémicycle, pas non plus en commission. La jeune militante suédoise sera aux côtés d'autres jeunes et de la vice-présidente du GIEC dans un débat sur le réchauffement climatique. Tout ça se passera en salle Victor Hugo qui est au sous-sol de l'Assemblée. On est très loin du faste de la tribune de l'hémicycle. Cette polémique, elle met néanmoins en lumière les oppositions autour de la personnalité de Greta Thunberg au discours très alarmiste sur l'environnement. Au sein même de la majorité, certains, comme le député Maillard, dénoncent celle qui appelle à faire la grève de l'école. D'autres s'attaquent à sa vision jugée manichéenne, pas assez scientifique. En un mot, la jeune fille de 16 ans est accusée de jouer sur l'émotion de la jeunesse. Mais son discours porte. Récemment encore, le président Macron confiait que c'est la mobilisation de cette jeunesse qu'il avait fait évoluer justement sur la question du climat.
Europe 1, midi 44, la suite du journal François Claus.
L'émotion était grande tout le week-end dans la région de Rouen et notamment dans la commune de Canteleu après la mort de Mamadou Barry, ce chercheur guinéen tué de plusieurs coups. Eh bien, un suspect, 29 ans, turc, possédant de lourds antécédents psychiatriques, a été arrêté ce matin. Jonas Haddad, l'avocat de la famille, a exprimé une forme de soulagement après cette arrestation, mais pour lui, le combat doit continuer.
Ça reste une très bonne nouvelle, en espérant qu'il s'agit de la bonne personne, en espérant également que, assez rapidement, il ne conteste pas les faits, et en espérant aussi qu'il ne conteste pas le mobile raciste de son agression qui s'est transformée en meurtre. Ce qui est important pour la famille, c'est qu'on reconnaisse finalement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quelqu'un est mort en raison de la couleur de sa peau. C'est ça que la famille veut qu'on puisse reconnaître en tant que tel, au-delà de la douleur immense depuis 48 heures. Alors il y a 2 choses qui s'organisent. La première, c'est la cagnotte Litchi, qui a été mise en place afin de pouvoir soutenir la famille. Et la deuxième, c'est l'organisation d'une marche blanche qui devrait avoir lieu en fin de semaine. On n'a pas encore les détails. Et avec comme mot d'ordre qu'on ne peut pas être tué en France en 2019 en raison de sa couleur de peau.
Voilà les réflexions de l'avocat Jonas Haddad au micro de Salomé Le Grand. Pour ceux qui n'auraient pas écouté Europe 1 ce matin, il était l'invité de Pierre de Villeneuve, le général Jean-Louis Georgelin. C'est lui, vous savez, qui est en charge du dossier de la reconstruction de Notre-Dame. Il a fait une mise au point très claire ce matin sur Europe 1. Non, Notre-Dame ne sera jamais un musée, c'est un lieu catholique.
Il est important d'affirmer que Notre-Dame est d'abord et avant tout un lieu de culte catholique. Notre-Dame n'est pas un musée. Notre-Dame n'est pas un mémorial de l'histoire de France, même si, évidemment, c'est un témoignage majeur de l'art gothique, c'est un témoignage majeur de l'art français. des grands événements de l'histoire de France s'y sont déroulés.
Oui.
Mais ce que nous faisons, c'est faire en sorte que dans 5 ans, comme l'a souhaité le président de la République,
oui, le délai.
Nous soyons à même de rendre oui. Notre-Dame au culte catholique. Je suis un peu surpris.
Le rendre au culte catholique avant oui. de le rendre à la France.
Le rendre au culte catholique avant de le rendre à la France.
Voilà les réflexions de Jean-Louis Georgelin, le général en charge, représentant spécial du président de la République, en charge du dossier de la reconstruction de Notre-Dame.
À suivre, François Clos, le Tour de France.
Et Thomas Voeckler, notre consultant.
Il est 12h49, le journal de la mi-journée se poursuit sur Europe 1 avec vous, François Clos.
On se repose sur le Tour de France.
Europe 1, en direct du Tour de France.
Journée de repos aujourd'hui avant d'entamer la troisième et finalement décisive. Comme tous les ans, semaine de course, les Pyrénées ont rendu leur verdict. Le jugement final interviendra donc lors des 3 étapes alpines à venir. Bonjour Thomas Voeckler.
Bonjour tout le monde.
Question simple Thomas, il a été souverain dans les Pyrénées. Thibaut Pinot est-il ce matin le grand favori du Tour? Autrement dit, peut-il reprendre 1 minute 50 à Alaphilippe et 15 secondes à Geraint Thomas?
Ma réponse est oui, ça ne veut pas dire que ça se passera comme ça, mais si on regarde les choses de manière objective, il a refait en 2 jours la quasi-totalité de son retard sur Geraint Thomas, sachant que lui, sa spécialité, c'est vraiment la haute montagne, et encore plus peut-être que Geraint Thomas. Et la troisième semaine va être terrible, donc oui, pour moi, au moment où on parle, après, il y a toujours des défaillances, il peut y avoir des faits de course, une petite panne de jambes, mais à l'heure où on parle, Thibaut Pinot est le favori numéro 1 pour gagner le Tour de France.
D'autant plus que Geraint Thomas semble moins souverain, même s'il faudra surveiller, évidemment, dans les Alpes, s'il n'en a pas gardé un peu sous la pédale, comme on dit. Et en même temps, Thibaut Pinot a une équipe qui semble forte, et notamment l'excellent Gaudu qui le mène dans les ascensions. Ça sent bon, effectivement, pour l'équipe FDJ, quand on regarde ce qui s'est passé dans les Pyrénées.
Concernant Geraint Thomas, dans les Pyrénées, c'est pas possible qu'il en ait gardé sous la pédale, parce que vous n'avez qu'à voir, déjà tactiquement, ça serait extrêmement mal joué de faire de l'intox à ce moment-là, et si vous voyez son visage de souffrance les 2 jours, que ce soit au Tourmalet ou hier au Pradalbis, vous voyez qu'il a un visage de souffrance qu'on n'a jamais connu l'année dernière sur le Tour de France. Donc il est clair qu'il n'est pas dans la même... Je ne dis pas qu'il n'est pas fort, mais il n'est pas aussi fort que l'an dernier. Un petit peu à l'image de son équipe, d'ailleurs. Et c'est peut-être l'année, d'ailleurs, comme on le disait avant le départ de ce Tour de France, c'est peut-être l'année, justement, de saisir cette opportunité. Et puis n'oublions pas, hein, c'est pas parce qu'il a perdu quelques secondes hier, Julien Alaphilippe, n'oublions pas, n'écartons pas Julien Alaphilippe du jeu, certainement pas. Il a pour l'instant de l'avance et c'est lui le maillot jaune.
Allez, c'est l'heure maintenant de notre balade quotidienne de l'été, carte postale sonore d'une France en vacances. Nous étions en Bretagne la semaine dernière, direction le Pays Basque. Alors qui dit Pays Basque dit pelote, dit feria, dit jambon, dit piment. Il faut que j'oublie rien, mon rédacteur en chef s'appelle Alain Cossibéry. Mais voilà, on dit aussi vague, et qui dit vague dit surf. Et ce qu'on sait un peu moins, Gianne Bergaoui, eh bien c'est que cette discipline a été portée par des femmes, des véritables pionnières, Gianne, de la glisse.
Oui, 60 ans après les débuts du surf à Biarritz, on parle d'elles comme des pionnières. Elles n'étaient qu'une poignée à tenter de dompter les vagues. Elles qui ont connu la grande époque de la côte des Basques, explique Marie-Pascale Delanne, devenue vice-championne de France et d'Europe dans les années 80.
Je me souviens bien, toute petite, de l'arrivée des premiers surfeurs étrangers à cheveux longs et... Les soldats du Vietnam américain qui venaient sur le Harley Davidson surfer à la côte des Basques. Et ça, je m'en souviens parfaitement, c'était vraiment passionnant. Mes sœurs aînées ont démarré le surf avec ce qu'on appelle les tontons surfeurs. Et c'est comme ça que de temps en temps, j'avais la chance d'être posée sur l'avant de la planche et de surfer avec elles. Et ça a été comme pour quasiment tous les gens qui se mettent au surf, un vrai coup de foudre.
Mais si ces pionnières ont certainement ouvert la voie aux générations suivantes, il n'a pas toujours été facile de s'imposer dans un univers très masculin. Pendant longtemps, dans les vagues, les surfeurs étaient largement majoritaires. Et puis avant, tout était axé sur les hommes. Emmanuelle Joly a 48 ans, c'est une ancienne professionnelle.
Quand moi j'ai commencé à surfer, on portait des combinaisons de garçons. Il n'y avait pas ou peu de surf shop, il y avait un seul surf shop sur toute la côte. Je me suis mise à l'eau toute seule et j'ai fait mes classes toute seule. Et c'est vrai que c'était pas super accueillant, effectivement les garçons à l'eau n'étaient pas très fun.
Alors aujourd'hui les relations se sont améliorées, explique la fille d'Emmanuelle Joly, elle s'appelle Wayna, la vague en basque.
Aujourd'hui les filles et les mecs ils surfent ensemble, c'est cool, on est tous un peu potes dans l'eau, c'est bonne ambiance, on s'entend tous bien, donc ouais c'est cool. C'est un sport qui est fait pour les filles et pour les garçons, ça c'est pareil, mais... Ouais, on voit que les filles se lâchent un peu plus et se mettent vachement plus à commencer le surf parce qu'elles ont aussi des exemples et du coup c'est cool de voir ça.
À tout juste 19 ans, Wayna vise déjà le circuit mondial professionnel. La jeune fille le reconnaît, ça a été bien plus simple pour elle. D'abord grâce à sa mère et comme toutes les jeunes filles aujourd'hui, elles ont accès à des gammes de produits féminins plus adaptées à leur morphologie. Et puis, il faut le préciser, les filles sont maintenant tout aussi nombreuses que les garçons dans les écoles de surf de la Côte Basque.
Il fallait le préciser, Jeanne Bergaoui. Ça fait du bien d'entendre ces vagues, hein, Marlène, derrière nous à l'antenne. Allez, si vous n'avez pas le temps de faire du surf et comme il n'y a pas de Tour de France cet après-midi, eh bien, allez acheter un livre. Vous allez par exemple chez Mola à Bordeaux, vous demandez Stéphane Place, il va vous signer un très beau livre. Ça s'appelle Animal, Sandrine Colette.
Sandrine Colette a le don d'embarquer les lecteurs dans des situations oppressantes où le suspense absolu vous tient vraiment en haleine jusqu'à la fin du récit, nous renvoyant à des questions existentielles. Celles-là même auxquelles sont en général confrontés les personnages dans une nature puissante, hostile. Dans son dernier roman, Animal, l'histoire débute dans la forêt népalaise avant de rebondir 20 ans plus tard au milieu des volcans du Kamtchatka, pour une chasse à l'ours que mène une femme dans cette terre reculée de Russie, une traque que vous conseille vivement de découvrir Véronique Marot, libraire chez Mola.
Il n'y a pas d'enquête, mais c'est cette nature dont il faut se méfier, et toute la menace est dans le titre « Animal ». C'est en effet la part de sauvage en nous et la part d'humanité dans l'animal qu'elle aime explorer, et dans celui-là, d'autant plus, elle va nous amener entre les forêts du Kamtchatka, donc très très loin, et en même temps aussi au Népal, où les tigres et les ours règnent. Donc il va y avoir une sorte de jeu de prédation entre des chasseurs et l'animal qui est traqué. Sandrine Colette, c'est une magicienne, en fait. Une magicienne des mots, une magicienne des histoires. Tous ses romans se passent autour de cette notion-là. Qu'est-ce qui en nous survit quand tout est perdu.
Un style unique, une qualité d'écriture et une tension psychologique que Sandrine Colette installe dans cette contrée lointaine.
Alors le Népal, tout le monde situe à peu près, le Kamtchatka, je sais qu'il y a des journalistes qui s'entraînent à le prononcer avant de m'interviewer parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir le dire. C'est une péninsule complètement à l'est de la Russie qui est, de manière anecdotique mais pas tout à fait, la plus grande réserve mondiale naturelle d'ours bruns. Un vrai paradoxe ou un vrai jeu entre des paysages qui sont alors très très grands et finalement assez peu connus parce que le Népal, c'est un peu touristique, mais pas énormément. Et le Kamtchatka, pour le coup, c'est beaucoup plus rare. Ces espèces de grands espaces sauvages, c'est le prétexte à une espèce de voyage intérieur, puisque c'est un roman qui commence, disons, un peu avec une chasse, une grande chasse, comme on les appelle. Et puis, il y a une espèce de mutation qui se fait, c'est-à-dire la chasse devient, à mon sens, une quête.
Depuis son premier roman, Des Nœuds d'acier, Grand Prix de littérature policière en 2013, Sandrine Colette parvient toujours à surprendre, bousculer les codes et le lecteur.
Merci Stéphane Place et un autre conseil de lecture demain à la même heure.
Oui, à suivre la météo d'Elena Morna, le rappel des titres de l'info et puis à 13h, la France bouge avec Raphaël Duchemin. Aujourd'hui, on prend la direction de la plage, émission à redécouvrir sur Europe 1. Comment s'équiper Made in France pour la plage? Alors on a pour vous un maillot anti-UV, un parasol et un drap de bain tricolore.
Alors Elena Morna, vous le disiez dès le début du journal, hein, la canicule s'est confirmée pour cette semaine et elle est déjà là à l'heure où nous parlons dans le sud-ouest.
Oui, alors 21 départements sont en vigilance orange canicule entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. On en a aussi 4 en Haute-Vallée du Rhône, avec 42 degrés cet après-midi à Bordeaux et Agen, 41 à Limoges, à Cognac et Montauban, 40 à Toulouse et Clermont-Ferrand, 39 pour Biarritz. Sur le reste du pays, on est à 34-38 degrés, plus respirable c'est vrai, en bord de Manche ou sur le Finistère avec 24 à 27 degrés, le tout sous le soleil. Et la suite n'est pas réjouissante, hein, François. Demain, la chaleur intense gagnera une belle moitié ouest jusqu'au centre et centre-est avec 38 à 42 degrés de Paris à Lyon jusqu'à Bourges et Biarritz. On débutera même la journée à 26 degrés à Toulouse. Des températures qui vont légèrement baisser mercredi pour remonter de plus belle jeudi. Journée la plus chaude de la semaine avec des records en vue. Hein. 38, ce sera pour Lille. On aura 42 à Paris ou encore à Auxerre, 41 à Lyon et Clermont-Ferrand. Alors, ce deuxième épisode de canicule par rapport au premier, par rapport à celui de juin, s'annonce bref mais plus intense que celui de juin, dans la mesure où les fortes chaleurs s'étendront cette fois sur l'ensemble du pays. La fin de l'épisode est prévue vendredi à l'ouest et au cours du week-end pour l'est.
On l'a compris, intense, mais heureusement assez bref pour le moment.